Bonjour, vous écoutez l'épisode 23 du podcast Les Petits Plus Saines. Nous allons parler aujourd'hui de faire ses propres choix. Je suis Séverine Feiss. Après avoir passé 22 ans comme professeure des écoles en maternelle REP+, j'ai maintenant à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent pour remettre un peu de sérénité en famille et profiter enfin de la vie avec des bons moments. Et vous savez maintenant comment je les appelle, ce sont des tequils. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la rayure verte de l'arc-en-ciel des besoins, la rayure d'autonomie, et un peu de la rayure jaune, de la rayure d'identité. La semaine dernière, si vous avez écouté l'épisode 22, on a expliqué comment poser les informations qui tiennent au cadre, aux limites et aux règles de vie. Et une fois qu'on a fait l'effort de poser ces limites, d'informer tous les enfants ou les élèves de ce qui était possible ou pas possible, que ce soit dans la classe, dans la cour, dans la salle de sport, au gymnase ou à la maison, puisque c'est transférable aussi, ils vont pouvoir, dans ce cadre sécurisé, dans ce cadre vraiment explicite, faire leurs propres actions, faire leurs propres choix et installer des actions choisies dont ils vont pouvoir prendre pleinement la conséquence, les résultats et affiner, rectifier en fonction de leur projet initial. Donc c'est une expérience que j'ai menée dans le dispositif des moins de 3 ans, que j'ai eu de 2015 à 2020. Bien entendu, j'ai aussi expérimenté ça en tant que maman avec ma grande fille et je me suis rendu compte que imposer aux enfants de faire tel ou tel projet tout le temps, imposer aux enfants notre méthodologie d'adulte, que ce soit d'enseignant ou de parent, desservait finalement la rayure d'autonomie. Si à long terme, on souhaite que notre enfant ou notre élève soit autonome, indépendant et puisse faire ses choix en pleine conscience et en pleine connaissance de cause, à un moment, il va falloir lui laisser faire des choix dès son plus jeune âge. Donc faire des choix, ça va être au début sur des petits points très précis, comme l'exemple que je donne très souvent, choisir entre le pantalon rouge et le pantalon bleu, ça n'a pas vraiment d'implication dans sa journée, mais c'est déjà un premier choix. Peut-être que le pantalon rouge gratte un peu plus, peut-être qu'il est plus chaud, peut-être que... Et ce premier choix va déjà l'amener à sentir que son choix a des conséquences, bonnes ou moins bonnes, désagréables ou moins désagréables, mais qui va pouvoir petit à petit rentrer dans sa base de données, comme je vous dis souvent, des éléments qui l'aideront la prochaine fois qu'il sera un nouveau carrefour, de se dire « Ah oui, mais la dernière fois quand j'avais fait ce choix-là, finalement j'en étais pas très content, est-ce que j'essaierai pas une autre voie aujourd'hui ?» Donc vous voyez, depuis l'âge des 2 ans de l'enfant jusqu'à son indépendance, son studio, son premier emploi, son premier couple et tout ça, il va y avoir tout un panel de choix que l'enfant va faire dans sa rayure d'autonomie, dans sa rayure d'indépendance. Et nous, en tant qu'adultes, on va pouvoir les aider très jeunes à constituer cette base de données qui leur permettra plus tard de ne plus se référer à l'adulte pour faire ses propres choix et faire ses propres projets. Donc en réunion de rentrée, quand je présentais le dispositif aux parents, je leur disais bien souvent que ma philosophie dans la classe, c'était que chaque enfant fasse son projet individuel. Par rapport au matériel qui était présenté, je ne demandais pas à l'enfant de s'approprier tel matériel, tel jour, à telle heure. J'aimais voir son envie, son intention d'explorer ce matériel, de le manipuler, de le comprendre, de s'en désintéresser, parfois vite, parfois plus longtemps, et de voir que chaque enfant réagissait avec ses expériences passées. S'il connaissait le matériel, bien entendu, il allait pouvoir le contrôler un peu plus facilement et trouver une satisfaction très vite. Si c'était un matériel qu'il découvrait pour la première fois, il avait parfois envie de l'appréhender et parfois pas du tout. Et en ça, la rayure d'autonomie lui permettait de voir s'il aimait ça ou non, s'il avait envie de continuer ou non, et donc renvoyait à sa rayure d'identité, de valeur, de connaissance de lui et de connaissance des informations qui lui vont ou pas dans ses goûts. Cette rayure verte d'autonomie, vous savez qu'elle joue aussi beaucoup quand on est dans un groupe, parce qu'on doit alterner, nous, c'est sans doute la même chose si vous avez plusieurs enfants à la maison, entre l'indépendance de chacun et la survie du groupe. La vie en collectivité a des règles imposées, Donc, c'est un peu différent du règlement dont je vous parlais la semaine dernière, mais dans l'idée que soit tu fais ce choix-là et ce projet-là et il est complètement sous ton contrôle, il n'interfère pas avec les choix des autres, soit le fait de vouloir prendre le panier d'instruments de musique pendant que les enfants sont encore en train de dormir, là, on est obligé de mettre ton projet en décalé, de mettre ton projet à un autre moment. Je valide ton projet de jouer avec le panier d'instruments de musique, mais là, le timing n'est pas bon par rapport au groupe. Donc, vous voyez, il y a plusieurs notions déjà qui s'interfèrent entre faire ses propres choix est intéressant de façon intérieure pour chaque enfant, mais les conséquences sont aussi à expliciter, à verbaliser sur le fait que ces choix ont une répercussion sur le groupe, sur ses frères et sœurs, sur les voisins, hein, quand il se met à hurler au milieu de la nuit ou en plein dimanche de barbecue, ça a des conséquences. Donc plus on explicite, plus on met des mots sur les causes-conséquences et plus on verbalise finalement les actions de l'enfant en lui disant « Ah oui, mais quand tu as fait ça, ça a donné tel résultat, qu'est-ce que tu en penses ?» Tout ça, ça fait une fois de plus, des éléments qu'il va pouvoir s'approprier, mettre en lui-même pour faire ses propres projets et décider ensuite en toute autonomie et en toute indépendance. À la lecture du livre de Céline Alvarez sur les lois naturelles de l'enfant, vous avez peut-être vu aussi le chapitre qui dit que l'enfant qui se sent réussir, qui se sent faire, qui est vraiment acteur de sa démarche et de son expérience, apprend beaucoup plus vite qu'un enfant qui cherche à chaque étape la validation extérieure ou la validation de la maîtresse qui doit corriger l'exercice. C'est bien plus intéressant pour lui d'avoir tout de suite les critères de réussite, tout de suite les critères de choix. Et je donne souvent l'exemple dans les rooms des puzzles d'encastrement. Là, l'enfant, quel que soit son âge, il voit si c'est bon ou pas bon. Il n'a pas besoin de l'adulte. Si ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas la bonne place. Et au niveau sensoriel, au niveau intellectuel, il s'approprie du coup bien plus facilement la démarche de connaissance, la démarche de découverte. Quand on lui propose un exercice qui n'a pas besoin d'être validé, corrigé, verbalisé par l'adulte, l'enfant se sent acteur non seulement de son apprentissage, mais en plus de sa réussite. Et là, ça bascule sur la rayure jaune d'affirmation de soi, de puissance personnelle, de fierté, de connaissance de son potentiel. Et c'est bien entendu une des valeurs de la pédagogie Montessori, de laisser l'enfant explorer, se rendre compte qu'il est capable, se rendre compte qu'il a réussi. Et du coup, la posture de l'adulte, que ce soit le parent ou l'enseignant, est plus en observateur et plus en fournisseur de matériel que d'intervention. Et plus les années passaient quand j'étais professeur des écoles, et moins j'intervenais dans l'apprentissage de chaque élève pour le laisser vraiment en pleine puissance de sa construction de savoir, parce que chaque intervention de l'adulte, que ce soit au parc, que ce soit en classe, que ce soit à la maison, chaque intervention dérange finalement le processus intérieur qui est toujours en train de rectifier. Alors, telle conséquence, telle cause, telle conséquence, telle cause, est-ce que je veux continuer? Est-ce que j'ai encore envie de le faire? Est-ce que je veux passer à autre chose? On interrompt en fait son cheminement intérieur. Alors, c'est parfois involontaire, c'est parfois lié à notre vie de famille, mais en vrai, plus on laisse l'enfant sur sa réflexion intérieure et son cheminement de projet, et plus il est capable ensuite de faire des choses tout seul en autonomie. Et je crois que c'est ce qu'on aimerait avoir pour nos enfants et nos élèves, qu'ils soient capables ensuite de faire tout seuls leurs propres choix. En mettant un peu de sens, en mettant un peu de cohérence, en mettant vraiment explicitement les causes et les conséquences à la fois sur lui-même, à la fois sur les autres et à la fois sur le groupe, éventuellement en tirant même les leçons sur « si tu fais ça maintenant, demain, il y aura telle conséquence ». Donc là, vous avez aussi la structuration du temps. Ça permet vraiment de voir l'éducation et la scolarité sur le long terme. Il y a une cohérence d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Quand on reprend en remembering, tu te souviens, pendant l'automne, tu avais ramassé des marrons, tu en avais mis beaucoup à la cave, mais comme ils étaient restés longtemps, après, ils étaient moisis, ils étaient pourris. De lui rappeler les expériences qu'il a faites, de réactiver sa base de données et ses informations dans sa mémoire, dans sa tête, pour que toutes ces potentiel qu'il a vécu, qu'il a expérimenté avec ses cinq sens, soit réactivé régulièrement pour les utiliser de façon transversale dans un autre domaine de vie, dans un autre domaine de compétences. Donc comme bien souvent, les épisodes vont se rejoindre les uns les autres, que ce soit l'épisode de cohérence et de sens, que ce soit l'épisode de verbalisation, que ce soit l'épisode de poser une sécurité, évidemment dans le cadre de la séparation et de l'attachement, tout ça se renvoie dans un climat de confiance et d'apprentissage qui est nécessaire pour que l'enfant ose s'approprier une activité. S'il sent qu'il est attendu au tournant, qu'il a une pression sur lui, que c'est une évaluation, que tout le monde le regarde, il n'est plus vraiment en pleine puissance de son projet individuel. Et c'est un peu le cas quand on est nous, adultes, soumis au regard des autres ou soumis à un timing très serré. On se sent moins capable et on se sent moins puissant de donner le meilleur de nous parce que de toutes parts, il y a des éléments extérieurs qui nous perturbent et qui nous parasitent. Donc l'idée, c'est là de voir à quel moment on peut, dans la classe ou à la maison, laisser l'enfant expérimenter seul des actions qu'il veut mener, des conséquences qu'il est capable d'assumer, et si, comme ça va arriver tout le temps, la conséquence de son action ne lui plaisait pas, il serait alors capable de réagir lui-même, sans que nous, adultes, on lui dise « Ah, t'aurais dû faire ça ». Parce que cette phrase-là, on l'a tous entendue. « Ah, mais il fallait pas faire comme ça, t'aurais dû faire ça ». Mais l'enfant, il a déjà vu que le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'il attendait. C'est valable notamment sur les dessins des enfants. Quand ils voient que leur dessin ne ressemble pas à ce qu'ils attendaient, il y a une frustration qui s'installe, il y a des enfants qui gribouillent, il y a des enfants qui déchirent, il y a des enfants qui jettent, qui développent un feu de cheminée vis-à-vis d'eux, de leur colère de ne pas avoir réussi à performer aussi fort qu'ils le voulaient. Et dans ces cas-là, l'action en elle-même se suffit. Il n'y a pas du tout besoin du commentaire de l'adulte pour juger, critiquer ou proposer une solution. On peut finalement, de façon symbolique, lui tendre un miroir en disant « Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu le vis, toi ?» Et là, je vous renvoie à l'accueil des émotions, l'épisode 10, où le feu de cheminée est déjà tellement intense parce qu'il a bien vu que la conséquence de son geste ne lui plaît pas, que le résultat de son action n'est pas ce qu'il attendait, mais ça va lui faire une magnifique expérience pour la prochaine fois. La prochaine fois, il fera différemment. Et vous, vous êtes juste là comme témoignage qu'il l'a bien vécu et qu'il va pouvoir utiliser cette information plus tard dans son prochain dessin, dans son prochain jeu de construction, dans sa prochaine création, ça peut être artistique ou langagière. Mais laissons-les vivre pleinement le moment où il se rend compte que le résultat n'est pas à la hauteur. Parfois, on veut leur éviter la souffrance, la tristesse, la frustration, mais c'est un chemin à traverser pour grandir. Donc, laissons-les constater, finalement, que ce qu'ils ont fait n'est pas encore à la mesure de ce qu'ils en attendaient. Alors, il ne s'agit pas de mettre un matériel trop compliqué à la portée de l'enfant. Il ne s'agit pas non plus de lui demander quelque chose qui n'est pas de son âge physiologique ou psychologique. L'idée, ce n'est pas de le mettre en difficulté. Par contre, quand il a envie d'essayer de monter sur l'échelle, c'est le bon créneau. C'est la période sensible où il a envie d'essayer. On sera à côté de lui pour s'assurer de sa sécurité. Mais si l'envie est là, si votre enfant, si votre élève a l'intention de faire ce petit projet-là et qu'il n'y a pas de danger réel, grandiose, aidons-le à s'approprier vraiment son cheminement et son apprentissage. Et vous verrez que dans les yeux des enfants, la confiance, la rayure orange, là, commence à briller parce qu'on lui autorise ce petit projet qu'il a tellement envie d'essayer. Parfois, c'est juste passer le râteau, parfois, c'est juste traverser la rue sans donner la main. Ces petits projets-là sont possibles. Ces petits projets-là nous demandent, par contre, de l'attention, de la vigilance. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et de laisser tout faire, il s'agit d'accompagner l'enfant dans son autonomie, dans son indépendance. Et je pense qu'il y a plein d'exemples déjà qui vous viennent, parce que vous avez déjà vécu ça avec vos élèves, vous avez déjà vécu ça avec vos enfants. Parfois, ils ont une envie, on voit les yeux briller et on n'ose pas se lancer en se disant « Non, il est trop petit, non, c'est pas le bon moment, non, là, j'ai pas envie. » Et en vrai, la fenêtre de tir, la période sensible, elle pourrait se représenter. Mais là, on a une occasion. Et c'est en ça que l'organisation très, très fixe, et j'entends certains collègues me dire « Toi, tu avais des organisations très, très fixes avant d'avoir le dispositif des moins de 3 ans. » Et c'est tout à fait vrai. Quand on a un emploi du temps très serré, très fermé, très minuté, on laisse moins la place à l'enfant de s'approprier les projets. On lui laisse moins le rythme et le timing nécessaires à son évolution intérieure et à son cheminement intérieur. Et pour rester dans cette notion du temps, l'enfant, il peut vraiment choisir de continuer ou de renoncer à son projet. Ça ne met pas en doute son estime de lui, ça ne met pas en doute le fait qu'il n'y arrivera jamais. Simplement, cet essai-là ne lui convient pas, il peut y renoncer, et peut-être que demain il refera ce puzzle une nouvelle fois, peut-être que demain il réessaiera de monter sur la poutre. Mais vraiment, laissons-les sentir, ressentir, comme je vous disais dans l'épisode 20, que c'est le bon moment pour eux de se lancer, qu'ils ont envie de se lancer, que leurs 5 sens ont envie de goûter ce nouveau fruit alors que personne n'avait envie de le prendre sur le buffet, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Si ça ne renvoie pas à une insécurité, à un danger immédiat, et pourquoi pas ? Ouvrons le champ des possibles pour qu'ils se sentent vraiment acteurs de leur apprentissage, qu'ils se sentent grandir, expérimenter et avancer sur leur chemin d'expérimentation. Nous, on ne l'a peut-être pas eu complètement et on peut l'offrir à nos élèves, on peut l'offrir à nos enfants. C'est une fois de plus une manière de ne pas asseoir notre vision de la vie, notre pouvoir, de ne pas soumettre les enfants à notre schéma de pensée. On a tout un déroulé dans notre tête, tout un protocole finalement où on se dit « Non, ça, on va faire ça plus tard, ça, c'est pas le bon moment. » Mais pourquoi pas en fait ? Il y a des enfants qui arrivent à monter un escalier tout seul à 2 ans. Il y a des enfants qui n'arrivent pas encore à monter un escalier tout seul à 3 ans. Il n'y a pas de problème. Certains enfants vont réussir à faire sans l'adulte très vite. Et puis certains vont avoir besoin de l'adulte plus longtemps. Et puis comme je vous dis souvent, c'est pas parce que le langage avance plus vite que la motricité va avancer à la même vitesse. Pareil pour le goût de l'écrit, pareil pour le goût des découvertes sensorielles. Chaque enfant va aller à son rythme, mais observons-les bien pour voir à quel moment, là, il y a une petite paillette dans leurs yeux qui s'allume en disant « Oh, j'ai tellement envie de faire ce jeu ou ce projet ». Donc ça nous évite aussi de les forcer, ça nous évite aussi de les soumettre. Je vous renvoie à tout ce qu'on disait sur le consentement de l'épisode 20. Et puis ça va leur permettre aussi de prioriser autrement. Peut-être que là, leur intérêt, c'est pas du tout ce jeu qu'on leur a acheté à Noël finalement. Ils ont cru qu'ils en avaient envie, mais on va pas se vexer parce que ce jeu-là, pour l'instant, ne leur parle pas. Et du coup, je fais une petite parenthèse sur le fait que quand on achète des jouets et des jeux, plus ils sont multifonctions, plus ils sont finalement peu marqués par le nombre de fonctionnalités, et plus l'enfant pourra le détourner et l'utiliser dans d'autres contextes. Donc prenez soin quand vous ferez la liste de Noël, c'est dans 2 mois quasiment, de voir si le jeu pourrait être utilisé à d'autres perspectives, à d'autres fins. Vous savez que les jeux comme les caplas, comme la dinette, vraiment comme la pâte à modeler, ce sont des jeux qu'on peut réinvestir avec des lettres, avec des empilages, avec des jeux d'équilibre, avec des créations artistiques. Donc, dans la mesure du possible, proposer des jeux qui vont pouvoir être vraiment dans l'autonomie de l'enfant et qui va pouvoir s'approprier très longtemps et même parfois sur 5, 6, 10 ans. Quand on voit le succès des Lego, vous voyez bien ce que je veux dire. Les Lego, ça reste dans la rayure d'expression et de créativité qui nourrit aussi bien les enfants que les adultes. L'indépendance physique et émotionnelle, on en a parlé aussi dans l'accueil des émotions. Quand l'enfant se sent fier d'avoir réussi une tâche, bien entendu, il y a le feu de joie qui va pouvoir apaiser un peu tous ses doutes, toutes ses craintes d'être trop petit, de ne pas savoir, de ne pas y arriver. Et plus il aura de moments où il aura réussi son petit projet, plus ces moments-là vont s'ancrer. On en parlait dans l'épisode trop rigolo. C'est des pépites en fait qui vont l'aider à accumuler des bons souvenirs, à accumuler des bons ressentis de son pouvoir, de sa puissance, et il pourra s'en servir dans les moments où ce sera moins facile, tout au long de sa vie, de se dire « Ah, mais ce projet-là, je l'ai réussi, ce projet-là, j'ai su contourner la difficulté, j'ai su dépasser l'obstacle. » Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, au début, je faisais à la place de ma grande fille, au début, je faisais à la place des élèves, et... On en parlait des fois en maternelle parce que quand vous arrivez dans une crèche ou dans une maternelle, il y a parfois de très très belles réalisations dans les couloirs. C'est magnifique, c'est très uniforme bizarrement et finalement on ne sait pas vraiment si c'était le projet de l'enfant, si l'enfant a été au bout de cette démarche ou si ça a été tellement guidé par l'adulte et c'est sans aucune critique et c'est sans aucun jugement. C'est juste, je vous invite à réfléchir au fait que, est-ce que l'enfant à ce moment-là s'est approprié la technique réellement ou est-ce qu'on lui a demandé de faire comme les autres et de faire parce que l'adulte voulait. Et c'est tout un contexte à remettre en perspective quand on voit qu'il y a beaucoup d'élèves. Certes, on ne peut pas proposer un projet artistique à chacun. Par contre, on peut proposer une technique à chacun et avec cette technique, il fera sa création lui-même. Et c'est en ça que de donner toujours un modèle ou de donner toujours une référence n'est peut-être pas tellement constructif pour certains enfants. Certains enfants vont comprendre qu'on attend ça d'eux et vont finalement le faire pour faire plaisir à l'adulte, mais ne vont pas le faire parce qu'ils se sont emparés eux-mêmes du projet, de l'intention, de la petite puissance ou du petit challenge que ça résonne en eux, de se dire « Oh là là, je ne sais pas faire, mais j'ai envie d'essayer. » Et donc, quand on est très très guidant au niveau adulte, ça peut perturber l'idée intrinsèque de l'enfant de se lancer dans ce projet-là. Mais je vous renvoie vraiment aux travaux de Céline Alvarez qui fait plusieurs interventions dans plusieurs chapitres qui sont vraiment très très pertinents. Moi, ça m'a beaucoup aidé à changer ma pratique dans le dispositif. Il osera plus tard sortir de sa zone de confort parce qu'il aura toute cette base de données. Je pense que ça renforce aussi son audace et son estime de lui. Donc cette rayure jaune, elle va s'activer de plus en plus fort et il saura aussi mieux poser ses limites quand ça ne lui conviendra pas. Si ce projet ne lui plaît pas, il y a des enfants qui sont très vite capables de dire « ça ne m'intéresse pas ». Et ils sont parfois moins dans la confrontation si on laisse à disposition plusieurs projets et si on leur laisse faire leur propre choix justement. Certains enfants se mettent en opposition avec l'enseignant, avec l'ATSEM, parce qu'ils sentent une pression, une attente qui les empêche d'être autonomes, libres de leur rythme d'apprentissage. Alors la collectivité n'aide pas toujours, hein, mais comme bien souvent, je vais vous dire qu'on essaye d'aller vers cet objectif, de s'aventurer vers ce chemin-là, de tendre vers cette idée. On ne va pas y arriver parfaitement, on ne va pas y arriver avec tous nos enfants ou tous nos élèves. Mais c'est une démarche, c'est une posture de l'adulte, à mon avis, qu'il est nécessaire de développer pour qu'on ne soit pas le référent ultime à chaque moment de notre élève ou de notre enfant. Qu'il commence à se baser aussi sur ses ressentis, sur ses connaissances, sur ses valeurs, sur son identité. Et parfois, il va choisir des choses qu'on n'avait pas imaginées. On peut travailler là-dessus aussi sur le fait que la proposition ou le projet de l'enfant ne vient pas vraiment dans notre projection, dans notre organisation. Et ça peut nous permettre de réfléchir à cette idée en disant « Mais pourquoi ça m'embête en fait qu'il fasse ça ?» Est-ce que j'ai peur qu'il soit trop jeune? Est-ce que j'ai peur qu'il se fasse mal? Et donc de nous interroger à chaque moment, en fait, pour nous dire, bon, je vois que cette envie de projet-là qu'il a, qu'est-ce que ça résonne en moi? Pourquoi ça résonne en moi? Qu'est-ce que ça active comme feu de cheminée? Qu'est-ce que ça active comme ressenti? Et en quoi ça m'empêcherait de finir mon programme, finalement? Si l'enfant a acquis plusieurs choses dans un des domaines, eh bien, il s'en sentira d'autant mieux et ensuite, il pourra explorer d'autres domaines de compétences. Ne pas se comparer et ne pas faire comme les autres, je vous en ai touché un petit mot tout à l'heure, c'est que l'uniformisation de tous les élèves à tous les stades de l'année me paraît difficilement réalisable parce qu'ils viennent tellement d'univers différents, ils n'ont pas du tout les mêmes expériences et les mêmes configurations. Donc arrêtons de les comparer les uns avec les autres en disant « Oui, mais ta sœur, elle l'a fait mieux. Oui, mais lui, regarde là-bas, il a bien réussi son puzzle. » Ça n'a aucune importance finalement. L'important, c'est que l'enfant aille au bout de son propre projet. Et s'il ne fait pas ces trois puzzles-là, est-ce que ça dit de lui qu'il n'y arrivera jamais? Pas du tout. Ça veut juste dire que son envie de faire des puzzles à ce moment de l'année n'est pas là. Et peut-être que dans 2 mois, il voudra faire des puzzles. Et c'est un peu comme les activités qu'on leur propose à la maison. Il y a des activités, on voudrait tellement le rentabiliser parce que c'est le cadeau de papy, mais il n'a pas envie de jouer avec ce jeu. Il va jouer avec les papiers cadeaux, les rouleaux de papier toilette et tout ça, parce que ça active sa créativité, peut-être sa rayure indigo d'expression, peut-être sa rayure parme de défi, de challenge. Vous voyez que le support importe peu. Finalement, l'intention et l'envie d'explorer est plus importante que le matériel et que le support. Bon, j'ai donné déjà beaucoup d'informations comme d'habitude. J'avais décidé de faire un épisode plus court, mais je crois qu'il va encore être assez long. Je voulais juste vous citer une phrase que vous connaissez peut-être, hein, de Mandela, qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et nous, quand on était enfant, on a bien souvent été contraints d'admettre qu'on avait échoué ou d'admettre qu'on avait perdu, alors que notre vision de l'échec et de l'erreur semble évoluer, hein, avec les générations, et tant mieux, de se dire que bien sûr nous allons échouer, bien sûr nous allons nous planter, mais nous allons pouvoir tirer des leçons, tirer des conséquences et réajuster notre trajectoire plus tard. Et je vous propose de faire ce cadeau-là aux enfants, que ce soit les vôtres ou que ce soit vos élèves, de leur dire « Waouh, bah écoute, ça donne pas du tout le résultat que je pensais, mais est-ce que toi ça te convient ce résultat ? Est-ce que tu veux nous montrer comment tu as fait ? Peut-être que ça intéressera les autres. » Vraiment de se servir spontanément de ce qui arrive dans la classe, de ce qui arrive dans la maison, comme support de langage, comme support de verbalisation, comme support entre guillemets scientifique, hein, cause, conséquence, action, résultat, et vraiment d'utiliser le quotidien sans projeter tout ce qu'il faudrait faire. Il n'y a rien à faudrait faire, et tout ce qu'il devrait avoir acquis maintenant au mois d'octobre. On n'a rien à dater, on n'a rien à forcer. Je ne sais pas si j'ai envie de m'insurger sur ces histoires d'évaluation à date fixe, mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé et qui pèse pour beaucoup de collègues de dire qu'en janvier, il y a ces fameuses évaluations nationales et tout ça. Voilà, un enfant, ce n'est pas une horloge qui sonne à heure fixe. Un enfant, il construit ses apprentissages et au moment de l'évaluation, il peut très bien avoir toutes les compétences nécessaires et rater quand même son évaluation. Donc, évitons le jugement et la critique de son apprentissage, de son cheminement, et valorisons toutes les découvertes qu'il va faire sur ce chemin. Explicitons vraiment toutes les conséquences en lui disant « Ah, ce résultat-là, est-ce que tu l'avais prévu ? Est-ce que tu t'attendais ? Est-ce que ça fasse ça comme résultat ? Ben, peut-être que si tu ne veux pas ce résultat-là, la prochaine fois, tu pourras faire autrement. » Mais sans lui donner le poids de notre expérience, le laisser réfléchir à sa propre expérience à lui. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez aller plus loin dans toutes ces notions-là, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je partage plusieurs défis et challenges. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Clubhouse, sur le site lppzen.com. Et j'ai mis à jour la fiche descriptive du cercle de parents. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir en ligne et à procéder à votre inscription, votre candidature, si vous êtes intéressé pour décembre. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.